Cette capsule du Bel Âge avec M. Alphée Moreau vous est offerte par la résidence La Belle Époque, là où le bien-être des aînés est leur priorité. Pour information, 441-1919.
À CRGA, pour en savoir plus sur le Bel Âge, voici Alphée Moreau.
Et oui, fidèle à son rendez-vous du jeudi matin à l'émission Bonjour Alphée.
Bonjour Anne.
Ça va toujours bien?
Super.
Oui, on avance vite dans le temps, hein? Ça s'en vient, là, le temps des fêtes.
Et comment?
Alphée, on a un bon sujet ce matin et je te laisse présenter notre invité.
Oui, ce matin, Anne, on a comme invité par téléphone Maître Denis Marsolet, qui est le curateur public du Québec. On va aborder avec lui les questions qu'on se pose concernant le projet de loi 18. Loi qui modifiera le Code civil, le code de procédure civile, la loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes. Bonjour, Maître Marsolet.
Bonjour, M. Moreau. Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin.
Bonjour.
Et avec Anne, que je ne connais pas, mais je vous salue.
Bien, merci beaucoup. Merci d'être là dans l'émission. Ça va être très intéressant.
Maître Marsolet, pour nous mettre en contexte, le curateur public du Québec, c'est quoi et quel est son rôle?
D'abord, le curateur public du Québec, c'est un organisme qui est là à veiller aux personnes en situation de vulnérabilité. L'objet et la mission du curateur, c'est d'abord et avant tout cette mission-là. Et elle a trois aspects dans cette mission. D'abord, elle accompagne les familles. À partir du moment où une personne est déclarée inapte, donc ça veut dire à partir du moment où une personne n'est plus en mesure de gérer adéquatement ses biens et s'occuper de sa personne, on peut parler d'une aptitude. Et lorsqu'une personne est inapte, on peut lui nommer un tuteur privé ou un curateur privé. C'est souvent un membre de la famille. Donc, nous, on accompagne les familles lorsque c'est un tuteur ou un curateur privé. Lorsqu'il n'y a pas de membre de la famille qui peut agir, c'est là le curateur public rentre en ligne de compte pour être le curateur auprès de la personne inapte. Et donc, on agit à ce moment-là comme représentant légal.
Parfait.
Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on s'occupe de la personne, de son hébergement, du consentement à ses soins, de ses besoins au quotidien, de la pharmacie, de l'optométriste, du dentiste. Et donc, on fait exactement ce qu'un membre de la famille à titre de tuteur pourrait faire, à une différence près, c'est qu'on n'a pas de lien de parenté avec cette personne-là.
C'est ça.
Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est curateur de la personne, on essaie toujours d'impliquer la famille ou les proches auprès de la personne inapte, parce que le lien familial est fort important pour une personne inapte. Deuxième rôle, et finalement, troisième rôle, ben c'est ce qu'on fait ce matin. Là, on sensibilise la population sur les régimes de protection, sur évidemment la loi qui a été adoptée à l'unanimité au mois de juin dernier. Et je précise qu'elle sera en vigueur au mois de juin 2022. Puis vous allez bien comprendre après l'entrevue pourquoi on a demandé un délai de 2 ans avant la mise en vigueur, parce qu'on a une foule d'informations et de gestion de changement à faire auprès des citoyens, auprès des entreprises, auprès des ministères. Et de telle sorte que comme c'est une loi qui est vraiment un changement de cap, un changement de culture, bien, on a besoin de tout ce temps-là pour effectuer les travaux pour que le jour de son entrée en vigueur, bien, tout le monde soit prêt.
Tout le monde sera prêt. Maître Marcelet, quels sont les principaux faits saillants du fameux projet de loi 18?
Il y en a plusieurs, mais je vais me limiter à 2-3 aujourd'hui parce que le temps est compté, je crois. Parce que si vous me donnez 1 heure, il n'y a pas de problème.
On
aimerait ça, oui.
J'ai pas la réputation d'être très concis, alors je vais essayer de me forcer ce matin de l'être. Écoutez, d'abord, avant d'aller aux faits saillants, c'était quoi l'objectif de notre loi? Pourquoi on a décidé, lorsque je suis rentré en fonction en juillet 2018, de travailler sur un nouveau projet de loi? Ben parce qu'on voulait le coller plus à la réalité, aux attentes de la population d'aujourd'hui. Et ce qui faisait en sorte que tout au long de l'élaboration du projet de loi, on s'est efforcé, dans l'élaboration des articles, de faire en sorte de miser plus sur les forces d'une personne que plutôt sur ses limitations. C'est vraiment un changement de cap, là. Donc, on regarde d'abord les forces d'une personne et on table un régime de protection en fonction de ses forces et en faisant en sorte qu'on s'enquiert aussi de ses limitations. Cette loi-là aussi, on voulait qu'elle tienne compte de la volonté et des préférences d'une personne. On voulait aussi conserver autant que possible l'exercice des droits civils à une personne. Vous savez, l'objectif global de la loi, c'est de faire le maximum pour pas enlever l'exercice de droit civil à des personnes. Puis si on peut résumer ça, parce que le temps file, globalement, cette loi-là fait en sorte qu'on veut respecter davantage la dignité d'une personne et mettre au centre de cette personne-là, la mettre au centre de toutes nos préoccupations, puis d'abord voir l'état de situation de la personne, puis après, si besoin, y appliquer un régime de protection. Mmh. Alors vraiment, là, c'est une loi qui, le ministre se plaît à dire, ou se plaisait à dire que c'est une loi d'ordre social, c'est un changement de société. Puis honnêtement, là, je partage tout à fait cette orientation-là. Okay. D'où est l'importance de cette loi-là? D'où est le fait que il reste peut-être 20 mois, les 20 prochains mois, on va diffuser la bonne nouvelle à l'ensemble des citoyens. Puis je sais que les personnes aînées qui nous écoutent actuellement, vous allez vous retrouver dans cette loi-là, puis vous allez voir qu'il y a des avantages dans cette loi-là que vous allez pouvoir en bénéficier dès juin 2022.
Maître Marcellet, c'est très bien la réponse, là, puis vous avez fini où je m'en viens. Là. Pouvez-vous nous faire un portrait là, des gens qui sont sous le régime public et pour quelles raisons?
Okay. Bien, d'abord, lorsqu'une personne est sur un régime de protection, que ce soit public ou privé, c'est une personne qui a été déclarée inapte par la Cour supérieure. Et pour qu'une personne puisse être déclarée inapte, c'est suite à un rapport médical, un rapport psychosocial, et c'est une personne qui ne peut plus s'occuper, et plus en mesure de s'occuper de ses biens et de sa personne. Ça, c'est l'inaptitude. Mmh. Alors, les personnes qui sont visées, ce sont ces personnes-là, à différents degrés, et si je peux vous donner quelques statistiques, ça va peut-être aider vos auditeurs là, à avoir l'ampleur des personnes qui sont sous notre juridiction. Alors, il y a 36 000 personnes adultes qui ont une mesure de protection au Québec, puis on évalue qu'à peu près 160 000 personnes qui sont inaptes au Québec. Ça veut dire quoi? Bien, il y en a autour de 124 000 qui, tout en étant inaptes, sans avoir été déclarés officiellement, mais n'ont pas de régime de protection. Ça veut dire que la famille qui est autour s'occupe bien de cette personne-là et c'est pas nécessaire, dans ces cas-là, d'ouvrir un régime de protection. Mmh. Ouvrir un régime de protection, c'est le dernier recours, M. Moreau. Il ne faut pas tout de suite se lancer à l'ouverture d'un régime. Parfois, c'est amplement suffisant que les proches puissent s'occuper de cette personne-là qui est inapte. Donc, les 36 000 personnes, il y en a 13 400 qui sont sur le régime public, donc dont on a la responsabilité. Il y en a 9 600 personnes qui sont sur le régime privé, donc c'est des tuteurs et des curateurs privés. Puis il y en a environ, qui totalise de 36 000, environ 13 000 qui ont été déclarés inaptes suite à un mandat qui a rédigé, un mandat de protection, et ce mandat-là a été homologué par la Cour. Alors, c'est un peu le topo là de la situation des personnes inaptes au Québec. Les causes d'inaptitude, ben 31% c'est des problèmes de santé mentale, 40% c'est déficience intellectuelle, 20% c'est des maladies dégénératives et 3% traumatisme crâne et 6% autres. Ça c'est vraiment le topo de la situation actuelle des personnes qui sont en situation de vulnérabilité au Québec, mais je m'en voudrais de ne pas vous parler des fins importants de la loi, là, parce que il ne faut pas escamoter ça. L'objectif, de notre entrevue, c'est d'abord et avant tout d'expliquer à vos auditeurs quel effet que ça va avoir sur vos auditeurs l'entrée en vigueur de la loi. Premier effet majeur, qui est une nouveauté, c'est la mesure d'assistance. Cette mesure-là, c'est pas un régime de protection. Ça veut dire que les personnes qui vont demander de s'enquérir de la mesure d'assistance, ce ne sont pas des personnes inaptes. C'est des personnes qui ont certaines difficultés, mais qui souhaiteraient, puis plusieurs de vos auditeurs vont se reconnaître probablement, qui souhaiteraient être assistés dans la prise de décision et qui souhaitaient choisir leur assistant. Je vais vous expliquer ça par un exemple, parce que ça va être le plus rapide. Le père et un fils. Actuellement, la loi actuelle, si moi, je veux agir pour mon père à titre d'assistant, ça veut dire que si je veux le conseiller, si je veux obtenir des informations auprès d'un ministère pour lui donner une réponse pour qu'il prenne une décision, je vais m'adresser à un ministère ou à une banque, ils vont me demander si je suis le représentant légal de mon père. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que je suis le tuteur de mon père pour que qu'il puisse me donner l'information nécessaire pour que je puisse le transmettre à mon père, que ce dernier puisse prendre une décision adéquate. Ça, c'est la loi actuelle. Lorsque la loi va entrer en vigueur en juin 2022, la mesure d'assistance va être en vigueur et à partir de ce moment-là, mon père pourrait, sur simple demande auprès du curateur, sans judiciarisation, donc il n'y a pas de rapport psychosocial, il n'y a pas de rapport médical, il n'y a pas d'intervention du tribunal, sans frais, faire appel au curateur public, remplir un formulaire simple par le web, par notre portail qu'on va créer, et faire une demande à l'effet que je désire que telle personne soit mon assistant, et je comprends très bien la portée de ma demande, donc je vais être aidé dans la prise de ma décision. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? C'est que l'assistant va pouvoir appeler un ministère X, dire « Je suis l'assistant de mon père, j'aimerais avoir telle information parce que mon père doit prendre une décision, vous avez demandé une réclamation supplémentaire, et il veut savoir s'il doit payer ou pas, etc. » Ça veut dire aussi que l'assistant pourrait communiquer avec une banque, avoir l'état de la situation bancaire de son père, et de la banque serait obligée de donner l'information. Ça ne veut pas dire, par contre, que le fils pourrait retirer des sommes au nom du père. Ça ne veut pas dire aussi que le fils pourrait signer au nom du père, mais ça veut dire qu'il pourrait obtenir des informations nécessaires, aller obtenir des informations nécessaires auprès du dossier médical pour faire en sorte que le père puisse donner un consentement avec lui toutes les informations.
Ah oui.
Ça, c'est la mesure d'assistance. Tu sais, je pourrais en parler pendant longtemps.
Oui.
Il y a des fils de protection. La mesure d'assistance, le nom de l'assistant va se retrouver au terme d'un registre public auquel tous les tiers pourront consulter pour s'assurer que la personne qui se présente comme assistant de son père est bien assistant de son père et que son nom se retrouve bien sur le registre public. Je vais vraiment grossièrement, là, mais si vous me donnez une heure d'une prochaine émission, ça me fera plaisir de vous reparler et oui. Vous donner plus d'informations. Je comprends que c'est...
Il faudrait trouver plusieurs commanditaires. Écoutez, maître, je ne veux pas vous...
Permettez-moi juste de dire le deuxième... Deuxième sur cinq faits saillants. Là, actuellement, la loi dit curatelle, tutelle, tuteur privé, tuteur public, etc., conseiller au majeur. On voulait, nous, par la loi, simplifier le régime de protection. Donc, on abolit le régime de curatelle. Il va subsister à partir de juin seulement un régime qui va s'appeler la tutelle. La tutelle modulée, ça veut dire quoi? C'est quand je vous ai dit tantôt qu'on va prendre en considération d'abord les forces d'une personne, puis après on regardera ses limitations. Tutelle modulée, ça veut dire que dans chaque cas, on va tenter, avec l'aide des rapports psychosociaux notamment, de faire en sorte de conserver le maximum de droits sur la tête de la personne pour ne pas y en enlever inutilement. Alors, c'est ce qu'on appelle une tutelle modulée et la Cour supérieure devra, avec les recommandations du travailleur social et médical, de ne pas automatiquement enlever des droits à une personne, mais de se poser la question, de dire, est-ce que certains droits, on pourrait le conserver sur la tête d'une personne? Je donne un exemple. Une personne est déclarée inapte, mais le travailleur social détermine que cette personne est en mesure de déterminer son lieu d'hébergement. Elle a une capacité pour choisir son lieu de résidence. Même chose, elle sera en mesure d'administrer une somme de 1 000 $ par mois, par exemple. Vous voyez où je veux en venir, là? On veut vraiment faire en sorte de non seulement respecter les volontés et les préférences d'une personne, mais respecter sa dignité. Puis ça, c'est fort important.
Maître Marsolet, les gens qui veulent de plus amples informations, on peut vous rejoindre à quel numéro de téléphone?
Alors, il y a des gens qui sont dédiés particulièrement les deux prochaines années à répondre à toutes les questions reliées à la loi. Ils composent le numéro 1-844 le curateur en un mot ou 1-844 532-8728. Et j'inviterai les gens aussi à s'abonner, à aller sur notre site web, curateurpublic.gouv.qc.ca, de vous abonner à l'infolettre. C'est l'infolettre mieux protégée. Alors, régulièrement, on met à jour cette infolettre-là qui est reliée à la loi et les gens auront toutes les informations nécessaires concernant la loi. Et c'est l'explication... Madame Anne, que je ne connais pas votre nom de famille,
Etienne.
Et M. Moreau, oui. qui nous obligeait, je pense, si on voulait agir correctement, d'avoir un délai de 24 mois pour qu'on soit prêt puis tout le monde soit au courant de la loi lors de l'entrée en vigueur. Alors, voilà.
Un gros merci pour toutes ces informations ce matin.
Oui. Maître Denis Marcellet, curateur public du Québec, merci d'avoir été des nôtres ce matin. C'est très, très, très apprécié et bonne journée à vous.
Et je me rends disponible, M. Moreau et Mme Anne, si jamais vous jugez qu'une entrevue de plus longue pourrait satisfaire vos auditeurs, ça me fera plaisir.
Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd.
Merci bien. Bonne journée à vous.
Merci à vous deux. Bonne journée.
Merci, Robert. Ah, bien, c'est beaucoup d'informations, mais oui. Très pertinent. Là.
Oui, très pertinent. Puis, comme de raison, j'ai eu l'occasion d'avoir le curateur public, M. Maître Denis Marcellet, mais c'est avec l'aide de mon ami Marc A. Desjardins, qui est du Técaro. Là, sans lui, je n'aurais pas eu le contact.
Bien, on le remercie beaucoup.
On le remercie.
Et je te remercie toi aussi, Alphée.
À la semaine prochaine.
Merci, bye-bye.